Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Voilà, on poursuit notre série sur les textes faciles et consensuels de la Bible. Non, c'est une plaisanterie. Nous poursuivons notre série sur la lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et il est vrai que le texte de ce soir est un texte qui souvent, au moins à première écoute, peut nous gêner, peut nous choquer. Et si c'est le cas pour vous, après avoir entendu ce texte, je vous encourage de quand même rester et de voir ce qu'on peut apprendre de ce texte en l'étudiant un peu plus précisément, en voyant notamment que peut-être certaines lectures rapides et caricaturales ne lui rendent pas justice à ce texte, essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul veut vraiment nous dire. En 1970, une première réforme du mariage a eu lieu en France. Et à ce moment-là, le rôle de chef de famille attribué au père a été supprimé, en tout cas cette notion. Et la notion également de soumission de l'épouse à son époux a été supprimée du code civil. Donc ça, c'est en 1970. Alors quoi qu'on pense du lien entre mariage civil d'une part et vision biblique du mariage d'autre part, là ça pose certaines questions bien sûr, le lien entre ce que la Bible enseigne et le mariage civil. Au-delà de cette question, il faut bien reconnaître que le texte de ce soir utilise des concepts et un vocabulaire qui sont considérés par beaucoup aujourd'hui comme dépassés et même offensants, choquants. Alors comment réagir à ce texte? Est-ce qu'il faut considérer que c'est finalement un texte de son époque qui reflète une culture patriarcale, qui favorise un modèle rétrograde et injuste? Est-ce qu'il faut, à l'inverse, en lisant ceci, réagir complètement à l'inverse et dire « Eh bien voilà, ça prouve qu'il faut revenir à un schéma ultra-traditionnel où l'homme dirige son foyer et la femme lui obéit ?» Eh bien, je vous suggère que ce texte, comme d'ailleurs le reste de la Bible, n'enseigne ni l'une ni l'autre de ces conceptions. Entre ce modèle qu'on pourrait appeler ultra-traditionnel, d'une part, et un modèle qui abolit toute idée de complémentarité dans l'union conjugale, il y a, je crois, le modèle évangélique au sens strict du terme, qui reflète l'évangile, qui reflète la bonne nouvelle. Et je pense que ce texte était tout aussi dérangeant à son époque qu'à la nôtre, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Je vous soumets que ce texte contribue à nous donner une vision du mariage chrétien, parce que c'est bien du mariage qu'il s'agit ici, il faut le préciser. Paul, dans ce texte en tout cas, ne parle pas des relations des hommes et des femmes en général, mais bien de la relation conjugale. Je pense que ce texte contribue à nous donner une vision du mariage chrétien qui est profondément nouvelle, qui est même révolutionnaire à chaque époque. Une chose qu'il est peut-être bon de dire avant d'aller plus loin, c'est que je suis conscient qu'une bonne partie du public de la rencontre du dimanche soir n'est pas mariée. Et pour certains, parler du mariage peut paraître pas très pertinent à l'heure actuelle. Mais j'espère quand même que cette réflexion sera utile pour tous, y compris les personnes célibataires. D'une part, pour pouvoir, si c'est votre cas, mieux encourager ou prier pour vos amis mariés, Et puis d'autre part, parce que le mariage est peut-être dans votre avenir et qu'il est préférable de savoir ce que la Bible en dit eh bien avant de se marier. Alors ce soir, je vous propose une réflexion en trois temps. Tout d'abord, on va parler de relations nouvelles marquées par le don de soi. Ensuite, la soumission de l'épouse selon l'Évangile, un respect libre et joyeux. Et enfin, l'amour du mari selon l'Évangile au service de la bien-aimée. En premier, des relations marquées par le don de soi, des relations nouvelles marquées par le don de soi. Si on regarde attentivement le texte, les versets 21 et 22, dans la version qu'on utilise, là, la Nouvelle Bible Second, c'est traduit de façon très littérale, très proche de l'original. Et on constate que l'apôtre Paul ne commence pas un nouveau thème au verset 22 en disant « Femme, soumettez-vous à votre mari, à vos maris ». Il commence son propos au verset 21 avec une exhortation adressée à tous. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Et il place clairement le verset 22 dans le cadre de cette exhortation générale en ajoutant simplement « Ainsi les femmes à leurs maris comme au Seigneur ». Un peu plus loin, on voit que l'apôtre Paul s'adresse à leur tour aux maris. Plus loin encore, il évoque d'autres types de relations, on en parlera la semaine prochaine, celles entre parents et enfants et entre serviteurs et maîtres. Face à ce constat, qu'il y a cette exhortation générale suivie d'exemples particuliers, certains commentateurs ont conclu qu'en fait, l'apôtre Paul appelle tout le monde à se soumettre à tout le monde de la même manière. Et que si ensuite il prend l'exemple des femmes qui se soumettent à leur mari, c'est simplement parce qu'en homme de son époque, c'est le premier qui lui vient à l'esprit. Mais cette position ne semble pas très crédible. Pourquoi ? Alors d'une part, Paul ne se contente pas de parler du rapport que les épouses doivent avoir avec leur époux. Il poursuit en parlant de la réciproque, en parlant du rapport du mari à sa femme. Et on voit bien qu'il utilise un vocabulaire et des images différents pour parler de chaque relation. Mais un argument encore plus décisif que cela, c'est que si vraiment l'apôtre Paul n'envisage aucune distinction de rôle et que simplement tout le monde se soumet à tout le monde de la même manière, alors pourquoi ne pas dire que les parents doivent aussi se soumettre à leurs enfants ? Je pense que même aujourd'hui, on ne serait pas, pour la plupart des gens, prêt à aller jusque-là. Et donc il me semble qu'on fait fausse route en pensant que pour Paul, c'est simplement tout le monde se soumet à tout le monde de la même manière exactement. Et simplement, entre autres, je vais donner l'exemple de la femme qui se soumet à son mari. Mais alors, si on rejette cette interprétation, comment comprendre cette tension entre ce « soumettez-vous les uns aux autres » et ensuite les exemples particuliers que l'apôtre donne. Je sais que le suspense est insoutenable, alors je vais tout de suite poursuivre. Je vous propose la compréhension suivante. Tous sont appelés, dans un sens, à se soumettre les uns aux autres membres de la communauté chrétienne, dans un sens général qui est de chercher systématiquement ce qu'il y a de meilleur pour l'autre. Tous choisissent librement d'honorer l'autre. Et donc il y a bien un mouvement de soumission réciproque d'un point de vue général, mais ce mouvement général de recherche du bien de l'autre, il se traduit de manière distincte selon la vocation que Dieu a donnée à chacun. Le but de Paul dans ce texte n'est pas de défendre un ordre social particulier, mais de promouvoir des relations nouvelles pour tous. Des relations où on ne raisonne plus en termes de ce qu'on va revendiquer pour soi, pour chercher à maximiser son propre intérêt, mais où on va plutôt chercher à faire librement ce qui est bon aux yeux de Dieu et ce qui va honorer l'autre. On a vu déjà plus tôt dans cette lettre aux Éphésiens que l'Église, pour Paul, c'est une nouvelle humanité qui est réconciliée avec Dieu et qui a Jésus-Christ pour chef. Et bien, dans cette nouvelle humanité, il y a de nouvelles relations. Il y a là aussi une anticipation, encore une fois, d'un monde à venir, entièrement renouvelé. Et bien, parmi ces nouvelles relations, le mariage a une vocation spécifique. Comme Paul le laisse entendre au verset 31, cette union intime qui est conclue entre un mari et une femme, fondée sur une promesse, elle reflète l'union de Jésus-Christ avec son peuple, fondée sur une promesse et un engagement pour l'éternité. Voilà un petit peu pour ce qui est de ce mouvement général. Maintenant, il est temps de passer quand même aux exemples concrets que l'apôtre Paul nous donne. Et j'en arrive à mon deuxième point, la soumission de l'épouse selon l'Évangile, un respect libre et joyeux. C'est clair que quand on lit ce texte, hein, comme on dit, ce n'est pas politiquement correct. Si je devais aller même dans la très conservatrice rue de Sèvres, le lire tout fort dans la rue, quelqu'un, j'imagine, appellerait les fémènes ou je ne sais qui, pour une réaction radicale. Mais je vous propose, plutôt que de réagir comme ça au quart de tour, d'essayer de comprendre calmement ce que l'apôtre Paul veut écrire. Et puis si après quelqu'un veut quand même s'énerver, eh bien c'est votre droit. Il me semble qu'il faut souligner trois clés de lecture pour bien comprendre ce que l'apôtre veut nous dire. Tout d'abord, la soumission de l'épouse, et qu'il faut comprendre dans son sens biblique. Je pense que le sens aussi a beaucoup dérivé avec le temps, qui est devenu particulièrement péjoratif et associé à des images comme la burqa, etc. Il faut oublier un peu ce contexte. La soumission de l'épouse n'est pas un assujettissement, mais un respect librement consenti. C'est intéressant, et je pense que c'est révélateur, que l'apôtre Paul n'utilise pas le mot obéissance, ici et ailleurs d'ailleurs, pour parler du rapport entre la femme et son mari. Alors qu'il utilisera ce mot un peu plus loin, en parlant des enfants par rapport à leurs parents. Or, jamais dans ce texte, et jamais dans la Bible, il n'est dit que l'homme doit soumettre sa femme. Au verset 22, d'ailleurs, Paul ne s'adresse pas au mari, il s'adresse aux épouses. Et il leur demande de choisir de manière libre et non contrainte de respecter une forme d'autorité que Dieu a confiée à leur mari et sur laquelle je reviendrai. Et d'ailleurs, on voit qu'ensuite, lorsqu'il s'adresse au mari, Paul ne leur dit pas « Et vous, veillez à ce que vos femmes soient soumises !» Il leur dit « Aimez vos femmes !» C'est un point capital. Dans une vision patriarcale typique, le mari a tout à fait le droit d'imposer sa volonté à sa femme. Ici, ce n'est pas le cas. Paul, qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration de Dieu, ne donne pas au mari le droit d'imposer leur volonté. Il ne donne pas au mari le droit d'imposer leur volonté. Il préfère s'adresser aux épouses et les inviter à honorer elles-mêmes la responsabilité particulière confiée au mari. Et donc, il me semble que ce texte s'oppose au contraire à une vision patriarcale où le mari décide et la femme se tait. Ce n'est pas la vision de l'apôtre Paul. Il suffit d'ailleurs de lire d'autres textes de Paul, où il dit par exemple que chaque époux a, dans un sens, autorité sur le corps de l'autre. Il ne parle pas seulement du mari sur la femme, mais aussi de la femme sur son mari. Donc, il suffit de lire d'autres textes de Paul pour voir que pour lui, le mariage est bien un partenariat entre deux égaux qui cherchent chacun ce qu'il y a de meilleur pour l'autre et ce qu'il y a de meilleur aux yeux de Dieu. Deuxième clé de lecture, la soumission à laquelle Paul invite les épouses n'est pas absolue. Alors c'est vrai qu'il demande au verset 24 aux épouses de se soumettre en tout à leur mari. Ce par quoi je pense qu'il veut dire qu'il ne s'agit pas de choisir certains domaines où on veut bien, eh bien respecter cette autorité et d'autres où on ne veut pas. Mais il est évident que l'apôtre Paul ne parle pas d'une soumission absolue ici, puisqu'à chaque fois, il ajoute une expression du type « dans la crainte du Christ », verset 21, « comme au Seigneur », verset 22, « comme l'Église se soumet au Christ », verset 24. Autrement dit, la soumission de l'épouse doit refléter sa soumission à Jésus-Christ. Et il me semble que dans un sens, cela implique des limites, parce que dès lors que son mari la pousse ou la contraint à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien non seulement elle a le droit, mais elle a même, je pense, le devoir de ne pas l'accepter. Pour que l'analogie fonctionne, il faut qu'il y ait aussi une réciprocité de la part du mari, on y viendra tout à l'heure. L'apôtre Paul, au verset 25 et suivant, s'adresse en contrepartie au mari et leur demande d'aimer leur femme, et comme on va le voir, de se mettre au service de leur femme. Troisième clé de lecture, l'expression « tête » ou « chef » renvoie à une autorité bienfaisante et protectrice fondée sur l'amour, et non pas à une contrainte. Verset 23, la Nouvelle Bible Second toujours, fait le choix de traduire encore très littéralement le mot grec qui signifie la tête ou le chef. D'ailleurs, en français, on l'oublie un peu, mais le chef, ça veut dire à l'origine la tête. C'est pour ça qu'on dit un couvre-chef pour parler d'un chapeau. À l'origine, c'est synonyme. Or, au verset 23, on voit que l'apôtre Paul fait un parallèle entre l'autorité du Christ et celle du mari. En tant que chef de l'Église, Jésus-Christ a effectivement une autorité sur elle. Mais cette autorité, l'Église la voit non pas comme une contrainte pesante, mais comme un privilège et comme une grâce. Et Jésus-Christ l'exerce non pas, encore une fois, par la contrainte et la violence, ou même, ouais, par la contrainte, mais par l'amour et le don de soi. Ce qui n'enlève pas son autorité. Alors, il serait temps de venir justement à ce qu'est cette autorité que Paul envisage pour le mari. Eh bien, très brièvement, il me semble que l'apôtre Paul envisage l'autorité du mari comme une responsabilité avant tout que Dieu lui a confiée de prendre soin de sa femme et de sa famille et de les servir. Et cette responsabilité, elle implique effectivement une forme d'autorité. Le mot « leadership » correspond assez bien pour la décrire. Il s'agit d'être prêt à s'engager pour sa femme et sa famille, à veiller à leur bien-être, à se mettre en première ligne lorsqu'il y a un danger, qu'il soit physique, relationnel, moral. Et oui, dans certains cas, et idéalement, je crois, le plus rarement possible, mais dans certains cas, eh bien, le fait d'être responsable devant Dieu pour sa femme et sa famille, ça peut conduire le mari à trancher une question où un désaccord demeure entre les deux conjoints. Parce qu'être responsable, on le voit dans d'autres contextes, c'est aussi parfois se jeter à l'eau, c'est aussi parfois prendre un risque et l'assumer. Mais bien entendu, le mari peut aussi être persuadé par sa femme que son avis n'est pas le bon. Il peut être amené à se rallier à son avis, c'est une évidence. Mais de même que l'autorité de Christ a été utilisée exclusivement pour le bien de son Église, eh bien l'autorité du mari est la vocation d'être utilisée en premier lieu pour le bien de son épouse et non pas en premier lieu pour son propre intérêt. Et ça aussi, c'est capital. Il me semble que si les maris qui exerçaient ou qui estiment qu'ils ont une autorité à exercer dans leur couple, dans leur famille, le faisaient exclusivement pour le bien de leur épouse et de leur famille, ça prêterait déjà beaucoup moins à polémique. De même que l'autorité de Christ a été exclusivement utilisée pour le bien de son Église, eh bien c'est aussi pour ce bien, pour le bien de son épouse, que l'autorité du mari a vocation d'être utilisée. Et ça nous amène à notre troisième point, l'amour du mari selon l'Évangile au service de la bien-aimée. Je ne sais pas si vous saviez que lors du naufrage du Titanic, 74% des femmes ont survécu, tandis que seulement 16% des hommes ont survécu. On ne l'entend pas très souvent dire. Donc en ce sens, le film Titanic est statistiquement correct, puisque Jack meurt, je pense qu'on peut le dire, tandis que Rose survit. Alors comment expliquer cette incroyable différence? Statistiquement, c'est incroyable. 74% des femmes ont survécu, 16% des hommes ont survécu. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Le slogan des marins de l'époque, les femmes et les enfants d'abord. C'était une évidence. Pourquoi ce principe? Eh bien, il me semble que les hommes de l'époque, alors ils avaient sans doute beaucoup de défauts par ailleurs, mais ils estimaient qu'ils avaient le devoir de se mettre en première ligne et de se sacrifier pour sauver leurs femmes et leurs enfants. Eh bien, voilà, il me semble, le genre d'amour auquel les maris sont invités ici. Non pas un amour qui s'impose ou qui contraint, mais un amour qui sert, comme Jésus-Christ a servi son Église. Verset 25, « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » Il s'est livré lui-même pour elle. Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver son peuple, l'Église. Il aurait pu revendiquer une autorité par la contrainte. En tant que fils de Dieu, il avait absolument cette autorité, mais il a choisi d'aimer d'un amour sacrificiel. Et la suite du verset 26 décrit plus précisément ce que Jésus-Christ a fait pour son Église. Je cite, « Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Paul décrit là le but du sacrifice de Jésus, se lier à un peuple qui sera son peuple, appelé à être saint, c'est-à-dire entièrement consacré à Dieu. Il évoque aussi le baptême, le bain d'eau, ça renvoie au baptême, et la parole de Dieu qui invite à la foi, qui invite à croire. Quand on lit cette phrase, il faut bien comprendre que Paul parle ici de Jésus et que son analogie avec le rôle du mari n'est pas totale. D'ailleurs, en lisant ce texte, il faut bien en être conscient. Le mari n'est pas le sauveur de sa femme, en tout cas pas d'un point de vue général. Dans une situation donnée, il peut l'être. Il n'a pas vocation à purifier sa femme. Mais le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et Paul nous indique de quel type d'amour Christ a aimé l'Église. Et on peut quand même retenir de cette image plusieurs éléments pour le couple. D'une part, on l'a déjà dit, l'amour du mari pour sa femme doit être sacrificiel. C'est-à-dire qu'il doit être prêt à placer l'intérêt de son épouse avant le sien. Ensuite, l'amour du mari doit être valorisant. Il doit tout faire pour honorer les qualités de sa femme et les mettre en valeur autant qu'il le peut. Enfin, l'amour du mari doit être profondément solidaire. Et par là, je veux dire que le mari considère que porter atteinte à sa femme, si quelqu'un porte atteinte à sa femme, c'est comme si on portait atteinte à lui-même. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il écrit au verset 28 « Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps ». On peut trouver ça surprenant, après les paroles très élevées juste avant, « aimer comme son propre corps ». Mais en fait, c'est une référence au début de la Genèse où il est dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va citer ce texte un peu plus loin au verset 31. Pour Paul et surtout pour Dieu, il y a un tel engagement de vie entre mari et femme qu'ils doivent prendre soin l'un de l'autre aussi naturellement qu'on prend quotidiennement soin de soi-même en mangeant, en buvant, en se lavant, en s'habillant. Alors c'est une image, hein, je ne brosse pas les dents de ma femme, elle ne me brosse pas les dents non plus. Peut-être dans 60 ans elle le fera pour moi, je ne sais pas. Mais l'image est forte. Si tu fais mal à ma femme, c'est à moi que tu fais mal. Nous sommes dans ce sens une seule chair. Si tu dis du mal de ma femme, c'est de moi que tu dis du mal. Et la réciproque est vraie aussi. Une femme est aussi, bien sûr, solidaire de son mari. Elle considère que si quelqu'un lui porte atteinte, eh bien, on lui porte atteinte à elle aussi. Je pense simplement que Paul invite ici les maris à prendre tout particulièrement l'initiative dans ce domaine. Et je ne pense pas me tromper complètement en disant que beaucoup de femmes apprécient qu'un homme prenne ses responsabilités, se mobilise pour celle qu'il aime, se battent pour elle, au sens figuré, voire au sens propre s'il le faut. Et le dernier verset de notre texte, le verset 33, là encore pourrait nous déranger au premier abord. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors est-ce qu'il faudrait comprendre que ce n'est pas la peine que le mari respecte sa femme tant qu'il l'aime et que ce n'est pas la peine que la femme aime son mari tant qu'elle le respecte ? Non, pas du tout. Dans un autre texte, l'apôtre Paul invite aussi les femmes à aimer leur mari. Dans un texte de l'apôtre Pierre, il invite les maris à faire preuve de considération envers leur femme. Bien sûr qu'il y a dans les deux sens respect et amour. D'ailleurs, aimer sa femme d'un amour sacrificiel, ça implique qu'on la respecte. Et choisir librement d'honorer l'autorité de son mari, ça implique qu'on l'aime. Alors pourquoi cette différence de vocabulaire ? Je donnerai deux éléments de réponse. Tout d'abord, Paul ici met l'accent sur l'exhortation première qu'il adresse à chaque époux. Dans le texte auparavant, il a en premier lieu invité la femme à se soumettre à son mari et à le respecter. Et puis ensuite, il a invité en premier lieu le mari à aimer sa femme, à prendre soin d'elle et à l'honorer. Et donc il est logique qu'en récapitulant son propos, eh bien, ce soit à nouveau là-dessus qu'il mette l'accent. Mais également, je me demande si Paul ne met pas le doigt ici sur l'une des clés du bonheur dans le couple chrétien. Alors là, je vous soumets une opinion personnelle, comme à d'autres moments d'ailleurs, hein, une opinion personnelle, mais que j'espère tirer quand même de ce texte, en tout cas peut-être de ce que ce texte implique. Peut-être que l'homme, le mari, a particulièrement besoin de se sentir respecté par sa femme, de sentir qu'elle honore son leadership, ses initiatives, qu'elle est fière de lui et qu'elle a confiance en lui. Et peut-être qu'une femme a particulièrement besoin de se sentir aimée par son mari, de sentir qu'il prend soin d'elle, qu'il la trouve belle et désirable, qu'il est prêt à prendre des risques pour elle et qu'elle a confiance en lui. Si je suis complètement à côté de la plaque, vous pouvez venir me le dire tout à l'heure. Mais il est temps de conclure. Non, l'apôtre Paul, je crois, n'invite pas ici à défendre à tout prix un modèle traditionnaliste et patriarcal. Et d'ailleurs, on ne voit pas tellement l'intérêt pour lui de le faire, alors que c'était le modèle dominant de l'époque. C'était une évidence pour les couples que les femmes se soumettaient à leurs maris. Alors que les maris aiment leurs femmes, c'était peut-être moins une évidence d'ailleurs à l'époque. En tout cas, dans le contexte de l'Empire romain notamment. Mais ce modèle patriarcal, il faisait l'unanimité. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, si c'est vraiment là-dessus qu'il voulait mettre l'accent, sur le fait qu'il faut absolument défendre cette société ultra traditionnelle. Pourquoi perdre son temps à l'écrire alors que ça allait de soi pour la plupart des gens ? Il me semble que ce n'est pas le propos de Paul ici. À l'inverse, Paul ne prêche pas le type d'égalitarisme à la mode aujourd'hui et qui rejette toute distinction dans la vocation des hommes et des femmes dans le couple. C'est une coïncidence qu'on étudie ce texte au moment où ce genre de question est en plein débat en France. Ce n'était pas prévu, mais peut-être que c'est une bonne occasion. L'apôtre Paul, il me semble, propose une troisième voie, ni cet ultra-traditionnalisme autoritaire, ni cet ultra-égalitarisme qui ne voit aucune distinction de rôle, mais une troisième voie qui est le mariage chrétien, qui, comme le montre le verset 31, est comme une image en miniature de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Une alliance fondée, d'une part, sur sa protection et son autorité, son amour sacrificiel et son tendre soin pour son peuple. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que, finalement, Paul invite les maris, dans le cadre de la relation avec Christ, de s'identifier à l'épouse. Ce qui montre bien aussi qu'il n'y a pas ici un propos patriarcal. Une alliance fondée sur sa protection, son autorité, son amour sacrificiel et son soin pour son peuple, mais aussi fondée sur notre profond respect pour lui, son autorité, notre admiration de son caractère et ses œuvres, et notre profonde joie de le suivre. Je vous invite à la prière. Oui, notre Père, tu as inspiré toute l'Écriture. Il y a des textes qui parfois nous mettent mal à l'aise en raison du contexte de notre civilisation, de mots qui parfois fâchent aujourd'hui, à tort ou à raison. Donne-nous, Père, de ne pas nous en arrêter à ces slogans faciles et réducteurs, mais au-delà, à creuser ta parole, à comprendre ce qu'elle veut nous dire, à savoir remettre en question certains présupposés et à nous attacher à toi. Père, je voudrais te prier pour que tu nous aides à voir dans le mariage humain que tu as toi-même institué cette image magnifique, en miniature et imparfaite, certes, mais une image de la relation que tu as conclue avec nous. Je te prie de nous aider en ce sens, que nous soyons mariés ou célibataires. Je te prie de nous aider à avoir une juste vision biblique de ces choses. Au nom de Jésus, amen.